Chapitre 81. Ne plus résister. Un courrier est arrivé dans la boîte aux lettres de Capucine, sans timbre. Son oncle est passé le déposer. Une lettre qui ne contient qu'un poème et une phrase. J'aimerais venir te voir pour qu'on puisse se parler. Adélie avait annoncé à sa grande sœur qu'il revoyait son psy depuis Noël, qu'il s'en voulait, qu'il travaillait sur ses peurs et ses conflits intérieurs, qu'il n'avait qu'elle, sa peur de les perdre. Elle a repensé à la phrase du docteur Diderot, « Qui doit s'adapter à qui ?» Et s'il était prêt à s'adapter, lui ? Capucine l'a invité à prendre le goûter. Elle entend la voiture. Quand elle ouvre la porte, il se tient penaud sous la pluie, sans parapluie, un bouquet dans une main et un gâteau au chocolat dans l'autre. Elle a déposé les fleurs et la pâtisserie à la cuisine pendant qu'il se déchausse et suspend sa doudoune au crochet de l'entrée. Il n'ose pas aller plus loin. Elle revient le prendre dans ses bras et lui propose de venir s'asseoir au salon. « Tu as des choses à me raconter, je crois ?» dit-elle en posant le plateau du goûter sur la table basse. « Je m'en veux, Capucine. Je m'en veux d'être ainsi. Un gros con psychorigide. Mais je travaille. J'ai repris mes séances chez le psy. Adélie me l'a dit. J'en suis heureuse, elles te feront du bien. Il m'aide à comprendre les raisons de ses idées. On a cherché d'où elles pouvaient venir. Bertrand se confie alors à sa nièce sur une période de son enfance dont il n'a parlé à personne. Jamais. Même Jean-Baptiste ne l'a pas su. Un secret bien gardé, un peu honteux. Une sorte d'abandon qu'on ne veut pas s'avouer. Quand ton père est né, j'avais 5 ans. Ma mère était seule pour accoucher. Tu sais que notre père était routier à l'international, il partait la semaine, parfois plusieurs d'affilée. Elle m'a déposée chez ses parents en partant à la maternité. Elle a mis 2 ans à revenir me chercher.
2 ans? Sans te voir?
Si, elle passait certains soirs, parfois le dimanche, pour montrer le bébé à ses parents, me dire qu'elle était trop fatiguée pour me reprendre, mais qu'elle irait bientôt mieux.
Capucine le regarde, les larmes aux yeux. Alors lui aussi. Lui aussi peut comprendre la blessure, l'absence de mère, le rejet, le « je ne suis rien » à ses yeux.
C'est ma grand-mère qui lui a dit un jour qu'elle devait me reprendre. Elle avait des problèmes de santé, un cancer à vaincre. Et puis, elle lui a fait la morale. Mémé voyait bien que j'étais malheureux.
Et tu as été plus heureux en retournant à la maison?
Je sais pas, pas sûr. Mais les choses étaient ainsi, je n'avais pas le choix. Personne n'en a jamais parlé dans la famille.
Et tu éprouves le besoin de me le dévoiler aujourd'hui?
Oui. Parce que Pépé s'est beaucoup occupé de moi durant ces 2 ans. Il m'a tout appris du jardin, des vergers. Je l'ai même aidé à faire de la goutte. J'étais petit. Il me parlait de tout, de rien. Des Noirs et des Arabes. De ces chiens qui venaient nous envahir. Il n'était pas méchant par ailleurs, mais il avait cette haine de l'étranger dont il ne se cachait pas. Alors qu'il vivait dans un village on ne peut plus alsacien avec des habitants du cru, pas d'étrangers.
L'inconnu fait peur.
J'ai baigné dans ce discours à un moment où une faille se creusait violemment en moi. Le psy pense que ce racisme s'y est insinué et installé solidement. Il m'aide à nettoyer les parois et à combler un peu la faille par la même occasion.
Capucine est touchée par les confidences de son oncle. Il a les yeux humides. Elle ne l'a jamais vu pleurer, même au décès de son frère. Un chagrin contenu.
Il a dû apprendre à retenir ses larmes avant la marche et la parole.
Elle se demande quelle situation est plus destructrice. Une mère qui part définitivement ou une autre qui rejette au profit d'un frère. Elle s'approche de Bertrand et le prend à nouveau dans ses bras. Il ne cédera pas aux larmes. La forteresse est trop solide. Des murs en triple épaisseur, des contreforts, des douves et juste un pont-levis pour ses deux nièces et sa petite souris.
Capucine sort alors la pochette de dessin rangée sous la table basse et les lui montre. Son oncle sourit en prenant le temps de les observer attentivement. Tu sais pourquoi j'étais à ce point attirée par les abeilles?
Je pense, oui. Je ne te l'ai pas dit quand nous avons parlé de ta mère. Un épisode d'incroyable a eu lieu la veille de son départ. Je me souviens du récit de ton père comme si c'était hier. Une belle journée de juin, pas trop chaude, un peu venteuse. Ils étaient partis faire un pique-nique dans la clairière de l'abbaye de Niedermunster. Tu commençais à marcher, mais tu te déplaçais surtout à quatre pattes, à une vitesse déconcertante. Tu as échappé quelques instants à la vigilance de tes parents, occupés à essayer de résoudre une énième névrose de ta maman. Tu étais assise au pied d'un chêne en lisière de forêt, les bras tendus, tu riais. Des abeilles virevoltaient tout autour de toi et se posaient les unes après les autres sur tes mains, tes bras, ton dos, dans tes cheveux. Tu riais sans bouger. Des centaines d'abeilles, peut-être des milliers. Corinne a paniqué, elle a voulu s'élancer vers toi, mais Jean-Baptiste l'a retenue par le bras en lui disant « Surtout pas. » Notre grand-père, le fameux, avait des ruches, il nous parlait souvent des abeilles. Ton père avait beau expliquer à Corinne que les abeilles qui essaiment sont tellement gavées de miel en quittant la ruche qu'elles ne peuvent plus piquer, qu'intervenir les aurait excitées, ta mère est partie fâchée dans la voiture, elle ne voulait pas voir la scène, elle le traitait d'irresponsable. Il est resté là un bon moment, à t'observer de loin, vigilant mais confiant. Tu semblais très à l'aise malgré tous ces insectes sur toi. Et puis, sans raison apparente, l'essaim en a rejoint un autre, déjà installé autour d'une branche de l'arbre au-dessus de toi. Jean-Baptiste était encore ému quelques jours plus tard, en me relatant la scène dans les moindres détails. C'est pour cette raison qu'il m'appelait sa toute petite reine. Pour cet épisode et pour tous les autres. Par la suite, à plusieurs reprises, tu as été au contact avec des abeilles sans qu'il ne se passe rien. Jamais plus à ce point-là, certes, mais quand les autres petites filles partaient en courant au moindre bourdonnement, toi, tu restais immobile à observer l'abeille posée sur ton bras. Comme quand tu es venu me voir à la sortie des urgences. Exactement. Et regarde tous ces dessins que tu as faits. C'est vrai que je n'ai jamais eu peur des abeilles. Mais je n'ai pas de souvenir de ce que tu me dis. Tu étais minuscule, pas encore à l'âge de la mémoire. Et je pense que ta rage de faire médecine ensuite a occulté cette envie d'enfant. J'ai même gardé les ruches de Pépé au cas où.
Vraiment? Tu les as encore?
Oui, au grenier chez moi. Elles me mangent la moitié de la place, mais je n'ai jamais pu me résoudre à m'en débarrasser.
Tu me les montreras? Évidemment. Tu crois que je pourrais y installer des abeilles noires? Ou Pépé va se retourner dans sa tombe?
Je crois qu'on n'en a rien à faire qu'il le prenne mal.
Papa te parlait souvent de moi.
Tout le temps.
Pour te dire quoi?
À quel point tu étais exceptionnelle, brillante, généreuse, sensible.
Il me manque.
À moi aussi, tu sais.
La toute petite reine. Oh, je m'en veux, petite, de toutes ces idées crasses, honteux de mes limites et d'être l'autre face de ta pièce de monnaie, ouverte vers les autres, contre les noirs, les gais, de quoi suis-je l'apôtre? Je ne sais pas pourquoi je les ai en horreur. C'est tout au fond de moi, sûrement une peur ridicule, infondée, inutile et mauvaise, que je veux démonter pour que tu sois à l'aise. Il paraît qu'on ne change que dans de rares cas. J'en ferai mon challenge, je veux franchir ce pas, pour ne pas te froisser, te perdre, m'éloigner. On en a eu assez des drames alignés. Je te promets, petite, que je l'accueillerai le cœur ouvert pour vite le voir à tes côtés. Tu mérites aujourd'hui de trouver ton bonheur et d'embrasser la vie comme ta petite sœur.